1,30. L'As est deuxième à 3,40 et le 13 est troisième à 2,20. Et puis dans la sixième, c'est le 10 qui l'a emporté à 1,70 et 1,20. Le 12 est deuxième à 1,70 et le 3 est troisième à 1,50. Merci d'écouter France Inter. Il est 17h03. Il est temps de retrouver Vali et Système Disque.
Merci Michel Khalifa. Bonjour et bienvenue dans Système Disque. Le 22 décembre dernier, les industries culturelles ont reçu un électrochoc la veille à l'Assemblée nationale. Une poignée de députés a adopté deux amendements relatifs au projet de loi destiné à protéger le droit d'auteur dans l'ère numérique, légalisant les échanges de fichiers musicaux sur Internet. Je vous propose d'écouter quelques réactions à chaud. Bernard Millet de la SACEM, Frédéric Couchet de l'initiative EUCD.info, Jean-Noël Reinhardt de VirginMega.fr et Bruno Auré-Lavolée de l'ADEMI. C'était le 22 décembre dernier.
On est aujourd'hui dans une confusion d'esprit invraisemblable et dans un système où l'irresponsabilité est mise en place.
Moi, je pense très profondément et très sincèrement que le ministre de la Culture n'est pas suffisamment informé de ce qui se passe. Je pense qu'il y a un barrage à un certain nombre de ses conseillers.
Quand j'ai vu la position qui avait été prise par certains partis, je me suis dit, ce n'est pas ça l'héritier du Parti Socialiste qui, à 30 ans, a mis en place la loi unique sur le livre, qui a mis en place la loi la langue. Ces gens qui, à 30 ans, ont permis de sauvegarder la richesse de l'édition française sont aujourd'hui en train de sacrifier la création musicale.
Ceux qui sont isolés aujourd'hui, ce sont ceux qui ont voulu imposer une logique unique, la logique unique de l'accès marchand à la culture, en ignorant l'aspiration profonde d'une grande partie de la population à d'autres formes d'accès à la culture, plus libres, plus spontanées, et dont il est très important de dire qu'elles doivent être rémunérées, ce qui était notre proposition.
C'était les réactions à chaud des principaux intéressés après le débat en décembre à l'Assemblée nationale sur la loi relative aux droits d'auteur. Et depuis ce, j'ai envie de dire, retournement de situation, il y a des questions qui se posent. Le droit d'auteur va-t-il mourir avec Internet? L'économie des biens culturels est-elle en péril? La licence globale garantit-elle la liberté des internautes ou au contraire la surveillance à l'outrance? Qu'en est-il des mesures techniques de protection? Alors il faut qu'on arrive à comprendre ces enjeux pour que le public puisse se faire une opinion. Et c'est pour cela que j'ai réuni aujourd'hui les protagonistes de ce moment historique que nous vivons. Je vous présente, messieurs, par ordre alphabétique. Xavier Blanc, directeur des affaires juridiques de la Spedidam. Patrick Bloche, député PS de Paris. Stéphane Bourdoiseau, patron du label Vagram et président de UPFI. Christophe Esperne, cofondateur de l'initiative EUCD.info. Et Laurent Petit-Girard, chef d'orchestre et aussi ancien président de la SACEM. Bonjour messieurs et merci d'être là en direct.
Bonjour.
Je crois que vous avez l'habitude de vous croiser pas mal en ce moment, non?
Pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Insuffisamment, sans doute.
C'est vrai.
Absolument.
Alors, j'aimerais que chacun puisse livrer son point de vue avec clarté. J'invite par ailleurs les auditeurs à nous écrire par le biais du site Système 10 sur franceinter.com avec leurs questions. La musique, ça adoucit les mœurs. Alors, avant de se lancer dans le débat, Dionysios, la métamorphose de Mr. Chat.
Hier, j'ai parlé avec une sorcière. On a discuté football et poésie hier. Puis je lui ai dit que j'aimerais qu'elle m'apprenne à kidnapper son mimi. Tire ou tigre, les dents cassées, genre chat de gouttière. Puis je me promène sur les toits, je crie, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas.
gueule le chat, ta gueule le chat, ta gueule le chat. Avec ses petits airs d'arbre en fleurs, j'ai eu envie de lui grimper dans les bras, voilà.
Sur France Inter, dans Système 10, c'est du lourd. Aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que le grand public puisse se faire une opinion sur le projet de loi destiné à protéger les droits d'auteur menacés par l'avènement Internet. Je vous rappelle que deux amendements relatifs à ce projet visant à légaliser le système de licence globale pour le téléchargement de contenu culturel ont été adoptés en décembre, contre toute attente. Xavier Blanc, vous êtes directeur des affaires juridiques de la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes, la SPEDIDAM. La SPEDIDAM et l'ADEMI défendent depuis plusieurs années l'idée de la licence globale. Cette taxe a été approuvée par les députés. Non, vous dites non.
Je dis non à la taxe, oui.
Non à la taxe.
C'est une redevance.
C'est une redevance.
Ça doit être versé aux ayants droit.
D'accord. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre position?
Bien, notre position est simple, en fait, même si, évidemment, autour de tout ça, il y a des constructions juridiques. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a environ 9 millions, peut-être plus, de connexions au débit en France. Et nous savons que ces connexions au débit sont utilisées notamment pour faire des téléchargements. On se connecte pas au débit à 2 mégas, 4 mégas pour recevoir des emails ou consulter les horaires des avions ou des trains. Donc on sait qu'il y a des échanges qui sont faits notamment par les réseaux peer-to-peer. Les internautes se connectent entre eux, s'échangent des fichiers, notamment des fichiers musicaux. Et aujourd'hui, la situation est que ces internautes sont passibles de poursuites, notamment parce qu'ils mettent ainsi à disposition sur le réseau Internet, des fichiers. Ils se voient menacés de poursuites, poursuivis, avec à la clé des menaces de sanctions qui peuvent aller, dans le code de la propriété intellectuelle, de jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Donc c'est une situation aberrante, parce que un certain nombre d'ayants droit, les sociétés de producteurs, et semble-t-il les sociétés d'auteurs, certaines sociétés d'auteurs, veulent interdire ces usages. Nous, ce que nous proposons, c'est de les autoriser, de les encadrer, de permettre ces échanges en peer-to-peer, dans le cadre d'une licence globale, optionnelle, c'est-à-dire que l'internaute qui veut paisiblement pratiquer ces échanges de fichiers en peer-to-peer, au lieu d'être confronté à une volonté d'interdire, aujourd'hui il a le choix entre les sanctions ou l'abstinence, eh bien, il pourra pratiquer ces échanges, mais en contrepartie, il choisira de verser une rémunération mensuelle qui sera perçue par son fournisseur d'accès et qui sera reversée aux artistes, aux auteurs et aux producteurs.
Alors, c'est pas un peu mettre pour une somme forfaitaire, le patrimoine mondial à la portée de tous, et puis 7 euros, ça me paraît très peu.
J'ai pas donné de chiffre d'ailleurs.
Ah, mais bon, le chiffre qui tourne, c'est 7 euros quand même. Par
pourquoi
mois.
Pas Il y a eu différentes évaluations possibles, mais on peut prendre le chiffre de 7 euros. Vous avez raison, c'est mettre le patrimoine mondial à portée des internautes. On ne peut pas s'en plaindre. La vraie question, c'est quelle est la contrepartie? Aujourd'hui, il l'est déjà, ce patrimoine mondial. On voit que la répression est totalement inefficace. Quand on s'était rencontré pour débattre de ce sujet, je crois qu'il y a un an et demi, on avait dit la répression est efficace. Un an et demi après, c'est prouvé. On voit que les échanges en réseau peer-to-peer continuent. Donc, ce patrimoine, il circule sur Internet. Nous pensons que c'est légitime. Nous pensons que ça doit être un espace de liberté, comme la copie privée est un espace de liberté. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une rémunération qui soit versée. Aujourd'hui, tout cela se fait dans la gratuité. Nous disons, responsabilisons les internautes et permettons aux ayants droit d'avoir une rémunération. Donc, il y aura une rémunération. Et 7 euros, par exemple, puisque vous prenez l'exemple de 7 euros, 7 euros par mois pour chaque internaute qui est connecté et qui effectue des échanges dans le cadre des réseaux peer-to-peer et qui télécharge, c'est quelque chose comme 250 millions ou 300 millions d'euros par an qui peuvent aller à la création, aux auteurs, aux artistes et aux producteurs. Donc c'est loin d'être négligeable et c'est quelque chose qui me paraît légitime et équilibré.
Alors vous parlez de quelque chose d'optionnel et pour moi ça me dit comment on va savoir qui l'a payé, qui l'a pas payé. Ça veut dire encore les internautes, est-ce qu'ils vont pas être encore plus fliqués qu'aujourd'hui?
Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, ils sont tous délinquants. Demain, s'il y a une constatation par les moyens répressifs qui sont développés aujourd'hui par l'industrie et par certaines sociétés d'auteurs, s'il est constaté qu'il y a des internautes qui font des téléchargements massifs, ben, au lieu d'aller directement vers la répression, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien peut-être qu'on vérifiera tout simplement si cette personne a souscrit l'option. Là, l'internaute aura le choix, un choix responsable, de dire, ben voilà, moi je veux télécharger, je veux faire des échanges, donc je prends cette option et je paye, et si je paye pas, effectivement, là, maintenant que j'ai le choix, je risque d'avoir des sanctions qui existent déjà. Donc, il n'y a pas plus de surveillance qu'auparavant. Par contre, l'internaute, là, il a le choix. Il a la possibilité de ne pas être un délinquant, ce qu'il n'a pas aujourd'hui.
Alors, vos intérêts sont très différents de ceux des producteurs, parce que les producteurs, vous défendez les droits des artistes interprètes et pas les auteurs. Donc, c'est là aussi, il y a un clivage, non? Je veux dire, par rapport
à... Vous savez, le clivage, il est très artificiel. Nous réunissons régulièrement nos artistes interprètes. Nous avons eu deux ou trois réunions encore la semaine dernière pour discuter avec eux. Et ce sont des artistes interprètes qui font beaucoup de séances d'enregistrement, qui sont dans les studios, qui sont présents dans le secteur. Et à 80% d'entre eux, ils sont membres de la SACEM. Ils sont aussi auteurs. Donc, nous avons interrogé, nous, nos artistes interprètes. Vous le savez, nous avons eu 13 500 artistes interprètes qui sont prononcés en faveur de cette solution qui rétablit un équilibre et qui rétablit la légitimité du droit d'auteur et des droits voisins. Nous les avons consultés. J'aimerais bien que les auteurs fassent la même chose et qu'ils les consultent. Je ne suis pas certain que les auteurs, en tous les cas ceux que je vois, les auteurs musicaux qui sont artistes-interprètes chez nous, je ne vais évidemment pas parler au nom des auteurs, encore moins au nom des sociétés d'auteurs, mais ils sont favorables à cette solution.
Stéphane Bordoiseau, vous êtes patron du label indépendant Vagram et président de l'Union des producteurs indépendants en France, UPFI. Alors pour une fois, les indépendants, les majeurs parlent d'une seule voix, surtout dans ce débat. Je pense que ni vous, ni les labels indépendants, ni les majeurs ne vous attendiez pas à la décision du 22 décembre. Pourquoi c'était...
Je ne sais pas s'il fallait qu'on s'y attende ou pas. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette décision a été prise et elle pose, à notre avis, un problème significatif quant aux revenus globaux que l'exploitation de la musique pourrait produire demain. Moi, je pense pas qu'il y ait uniquement une alternative suivante qui consisterait à soit être délinquant en pratiquant les échanges de fichiers musicaux, soit s'abstenir. Il y a un accès à la culture qui est divers et varié par le biais de la radio, des concerts, également par le biais d'offres dites légales aujourd'hui, soit par le biais d'un support qui est amené à disparaître, mais aussi par le biais de fichiers de musique payants. Ça coûte 1 euro d'acheter un fichier payant, ça coûte 10 euros d'acheter un album. Ce sont des offres qui intéressent énormément de monde et de plus en plus de monde. En 2005, le volume d'affaires de ces ventes a été multiplié par 12 en France. C'est des offres qui datent de 2 ans, hein, et dont les répertoires se construisent de plus en plus et dont les moyens d'accès ou les moyens techniques qui permettent de les télécharger, de les utiliser, pose encore un certain nombre de problèmes, mais qui s'amenuisent de plus en plus. Aux États-Unis, ces offres-là sont un peu plus vieilles et existent depuis 3-4 ans.
Ça se tasse un peu, je pense, aux États-Unis.
Mais pas du tout.
Les achats sur les plateformes légales.
mais pas du tout. Les croissances de fichiers dématérialisés augmentent beaucoup plus vite que la croissance des échanges par peer-to-peer illégaux. Donc ces offres, il y a beaucoup d'alternatives à cette idée selon laquelle on pourrait soit devenir un délinquant, soit ne pas avoir accès à la musique ou à la culture de façon générale. Nous, producteurs indépendants, on n'est pas les multinationales, on n'a pas des énormes stars, ce sont pas des montants énormes par producteur, hein, on est souvent des petits producteurs, des petites structures. On signe un petit nombre d'artistes qu'on accompagne parce qu'on pense qu'ils ont un potentiel très important et donc on leur donne un peu plus de moyens que s'ils étaient tout seuls pour enregistrer, pour avoir des outils type images avec leur musique, pour pouvoir se produire sur scène. On pense que cette licence légale, parce qu'elle n'a rien de global, c'est une licence légale, c'est donc par la loi qu'elle serait imposée, ne nous fournirait pas des revenus suffisants. D'ailleurs, on comprend rien à ce qui pourrait être spécifiquement cette licence légale, mais en tout cas, on pense qu'elle ne nous fournirait pas les revenus suffisants que nous avons aujourd'hui, qu'elle ouvrirait en plus la place à toutes les industries non françaises qui développe des stars internationales en France, si elles n'étaient imposées qu'en France. Donc nous, on a, en face de cette licence légale, un espèce de flip monstrueux qui est que demain, la création française va tout simplement subir une rupture significative.
Peut-être il est temps pour que les producteurs revoient la copie sur aussi la rentabilité rapide des artistes et tout ça, de revoir tout en baisse. Mais peut-être pas autant pour les indépendants que pour les majeurs.
Mais le monde d'Internet, et d'autant plus pour les indépendants qui ont souvent eu historiquement des difficultés d'accès aux médias, d'accès à la distribution, le monde d'Internet va permettre de décloisonner. Nous, on a envie d'y aller le plus vite possible. Et les économies que ce monde va permettre, notamment en distribution, puisque effectivement on va passer d'un produit physique et dématérialisé, on peut penser que on va avoir un prix de la musique qui va pouvoir être inférieur de 40%. Aujourd'hui, un CD, ça coûte 17 € dans un magasin. Un album dématérialisé, ça coûte 9,90, enfin 10 €. On a déjà pris en compte cette baisse de 40% qui est liée à cette réduction du coût du produit physique qu'on n'aura plus besoin de traiter. Et c'est très intéressant de pouvoir proposer plus de musique, et Internet va pouvoir le faire, pour un coût réduit. Maintenant, ça n'est pas possible non plus d'envisager un univers où la musique n'aurait comme revenu qu'une aumône, parce que moi je pense que le peer-to-peer est juste un système génial, qui permet d'avoir accès à tout très facilement, c'est génial. Et moi, je pense que justement, cette licence légale, elle ferait que les revenus seraient complètement substitutifs à tous les revenus qui existent actuellement.
Pendant longtemps, les artistes se sont tus sur la question de la libre circulation de la musique en ligne. En 3 ans et demi de système disque, je n'ai pas réussi à avoir un artiste qui voulait s'exprimer sur ce sujet. Mmh. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai croisé Vincent Delerme ce fameux 22 décembre et je lui ai demandé pourquoi je n'avais jamais entendu s'exprimer là-dessus auparavant.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, on a appris que les députés qui ont voté pour la licence, en fait, se sont appuyés pas mal sur l'idée que les artistes eux-mêmes sont pour. Du coup, il y a eu une sorte d'amalgame un peu entre tout ce qui a été fait l'an dernier sur le fait que c'était n'importe quoi, la répression et les sanctions, et qu'on mettait des gens qui avaient téléchargé 3 disques limite en prison. Et c'est devenu, ah bah regardez, ils sont pour la licence légale, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, ce matin, c'est vrai qu'on s'est réunis, notamment les gens qui avaient beaucoup été dans ce sens-là, que ce soit Kali, Mathieu Chédid, Benabar, des gens comme moi qui faisaient partie de ce mouvement-là. Du coup, on a été mis dans une sorte de catalogue de gens qui feraient partie de ceux qui sont pour que de toute façon, il n'y ait plus de droits d'auteur et compagnie, quoi. C'est vrai que nous, ce qui nous anime, c'est quand même l'envie de plaire au maximum de gens. Donc, en l'occurrence, comme il y a beaucoup de gens aussi dans notre public qui téléchargent, évidemment, qu'on n'a pas envie de se dire c'est des petits salopards et tout ça. Donc, et puis du coup, c'est vrai que même beaucoup refusent de prendre la parole là-dessus à cause de cette peur-là. Mais c'est vrai que la peur du grand nombre, c'est aussi ce qui a conduit les députés, en l'occurrence, à voter un projet qui, visiblement, ils ne maîtrisent pas trop, pour plaire au plus grand nombre. Donc là, ça devient un petit peu compliqué, et c'est ce qui fait aussi que je crois qu'aujourd'hui, pas mal d'artistes ont senti que là, pour le coup, c'était le moment quand même de prendre un minimum la parole.
C'était Vincent Delerme que j'ai pu croiser le lendemain de l'adoption des amendements relatifs au projet de loi sur les droits d'auteur dans l'ère numérique. Patrick Bloch, vous êtes député PS de Paris. Comment êtes-vous venu à adopter l'amendement sur la licence globale? Est-ce que c'est, comme disait Vincent Delerme, est-ce que c'était une stratégie politicienne? Parce que 8 millions d'internautes, c'est pas mal de lecteurs à récupérer.
Oui, évidemment, on peut avoir cette vision électoraliste qui est réductrice, mais c'est un peu insultant pour des députés qui connaissent bien le sujet, qui sont investis depuis des années sur le droit d'auteur et son adaptation aux évolutions technologiques. J'en fais partie, mais je suis pas le seul. Et puis ensuite, quand on dépasse ces clivages partisans traditionnels et quand vous voyez les députés de droite et gauche voter deux amendements identiques, le réflexe est quand même de se dire « il se passe quelque chose ». Or, il s'est passé quelque chose le 21 décembre. Je voudrais qu'on fasse au moins aux députés, plutôt que de faire leur procès d'une sorte de facilité, qu'on leur reconnaisse au moins trois mérites. D'abord, de s'être opposé à un projet de loi qui a été écrit avec un amateurisme insensé et qui avait fait le choix funeste du tout répressif. Or, quand on vote la loi, on la vote pour qu'elle soit comprise et qu'elle soit admise. Et donc nous ne sommes pas là pour voter des lois incomprises et qui sont refusées par nos concitoyens.
Mais si c'était deuxième une première lecture, vous avez voté quand même, c'était pour réprimer qui
mais si la culture. Nous n'avions pas voté cet amendement, nous n'aurions pas cassé cette logique d'adoption à la veille de Noël dans les pires conditions d'un projet de loi liberticide qui avait soulevé contre lui non seulement nombre d'acteurs culturels, mais des associations de consommateurs, des associations familiales, des enseignants, des chercheurs, des bibliothécaires, des archivistes, l'Association des maires de France. La liste est longue. Donc, je veux dire par là, ne limitons d'ailleurs pas seulement le débat, même si on le place dans le champ culturel, à croire que ce projet de loi ne concerne que les acteurs culturels. Il concerne notamment toutes celles et tous ceux, ils sont nombreux dans notre pays, qui sont attachés au logiciel libre. Et de ce fait, à l'interopérabilité, on en reviendra sans doute, on parlera des mesures de protection technique. Donc, premier mérite pour les députés, s'être opposé à un projet de loi liberticide. Deuxième mérite, c'est d'avoir provoqué ce débat public qui fait que nous nous retrouvons, à l'heure où je parle, dans ce studio. Alors que c'était un débat entre spécialistes, entre techniciens, entre juristes spécialisés. Enfin, il y a un débat public sur une question qui intéresse tout le monde. Et puis, nous avons été amenés, effectivement, à adopter un amendement qui a fait un choix contraire à celui qui nous a été proposé. Plutôt que de rentrer dans une logique de répression, et plutôt que d'adopter un projet de loi, nous estimions que les dispositions seraient inapplicables et inappliquées. Nous avons voulu situer notre démarche législative, donc normative, dans un cadre qui est le cadre effectivement d'une autorisation du téléchargement et en contrepartie de cette autorisation, la mise en place d'une rémunération avec un modèle élaboré. Peut-être d'autres, on en débattra peut-être au cours de cette émission, mais avec un modèle qui avait au moins le mérite d'exister, celui de la licence légale et qui existe déjà sur d'autres médias.
Si est-ce que vous avez pensé à long terme et par ailleurs, j'ai envie de dire que la France est le seul pays au monde, je crois,
qui a... La France n'est pas le seul pays au monde.
C'est vrai qu'ils ont monté une partie, les adeptes peer-to-peer
ont monté une partie. En Suède et en Allemagne, allez voir ce qui se passe en Allemagne, il se passe beaucoup de choses en Europe, donc n'ayons pas cette vision systématique de dire il n'y a qu'en France. Et puis même si c'était il n'y a qu'en France, pourquoi pas, puisque nous sommes un pays d'exception. Non, ce que je voudrais dire, et surtout j'insiste...
La Commission européenne vous a rappelé à l'ordre, je pense.
Surtout, j'insiste sur ce point, parce qu'on nous a fait souvent le procès de légiférer pour légaliser la gratuité. C'est exactement l'inverse que nous avons fait. Car la gratuité, c'est aujourd'hui qu'elle existe dans la plus grande illégalité, avec des procès, pour l'exemple, afin d'intimider, ou pour ceux qui en ont la vision la plus rose, pour faire œuvre de pédagogie. Donc, si nous avions voté ce projet de loi, nous étions dans une logique lourde, qui certes amenait à mettre en place des mesures contre l'illégalité, mais qui, en fin de compte, n'apportait rien aux artistes en termes de rémunération. Donc, reconnaissons au moins aux députés le mérite en rentrant dans une logique non pas d'interdiction, donc de sanction, mais d'autorisation pour rémunérer, et bien d'avoir voulu prendre en compte la société telle qu'elle est, d'avoir fait une loi qui soit acceptée.
Mais je pense que c'est plus qu'un débat de société, parce qu'avez-vous réfléchi à ce que ça voulait dire pour la filière, la chaîne de la création, parce que c'est pas parce que c'est une économie que c'est forcément mauvais.
À partir du vote de ces deux amendements identiques, alors que la discussion du projet de loi est arrêtée, alors que le débat public est enfin ouvert, on peut enfin traiter des vraies questions, qui sont les modes de rémunération, qui sont les problèmes de répartition équitable. Et donc, ce débat, il est largement devant nous. Et quand j'ai un représentant des labels indépendants dans ce débat, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Parce que les problématiques qui portent au nom des labels indépendants sont des problématiques qui m'interpellent en tant que législateur. Et du coup, ce débat que nous avons créé m'a amené à avoir de nombreux mails de porteurs ou de partisans des labels indépendants qui me disent bah, pourquoi on ne créerait pas pour la musique ce qui existe pour le cinéma à travers le CNC, essayons de trouver des modes de financement qui soient autant de soutien à la production et à la diffusion. Donc voilà.
Mais que dit-il?
Tirons la meilleure richesse de ce
je
débat.
Je suis d'accord, mais quand j'entends Christian Paul, qui est, je pense que votre camarade au sein des PS, qui dit quelque chose, PS, je trouve assez irresponsable, il dit si 8 millions de personnes ne respectent pas la loi, peut-être il faut s'interroger sur l'égimité,
légitimité
de cette loi.
Normal, ça.
Alors, Xavier Blanc.
C'est la base de tout système juridique. Vous pouvez pas avoir un décalage énorme entre justice et équité.
Oui, mais après, on va prendre les mêmes exemples, c'est-à-dire si quelqu'un conduit à 300 à l'heure sur l'autoroute, parce qu'il y a beaucoup
très
de gens...
Très bon exemple. Mais croyez-vous que si on pouvait conduire à 300 km/h sans blesser et tuer personne, ce serait interdit. Aujourd'hui, on peut échanger les fichiers sans préjudice aux ayants droit en leur payant une rémunération. Le vrai problème, c'est la gratuité. Moi, ça me gêne pas que les gens roulent à 300 km/h s'ils ne peuvent blesser et tuer personne. Et si on peut échanger les fichiers sur Internet en rémunérant les ayants droit et en cessant cette logique répressive qu'effectivement le projet gouvernemental encourageait et développait encore un peu plus, eh bien, on règle l'essentiel du problème.
Stéphane Bordoiseau.
Moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que le projet gouvernemental, il allait justement sur une réduction des mécanismes de répression. Hier, on avait la possibilité d'avoir la police qui vient chez soi, qui nous arrête, on va au poste, ensuite on passe en procédure accélérée au tribunal, puis finalement on termine en prison. Le projet de loi qui a été présenté était un projet de loi qui adoucissait et qui graduait le mécanisme, entre guillemets, de répression par la constatation d'effectivement l'échange illégal, l'envoi d'un email pour dire « attention, c'est pas bien, vous n'avez pas le droit de faire ça », puis ensuite l'envoi d'une lettre recommandée et enfin un principe d'amende. Moi, quand je prenais le métro
c'est
sans
faux,
payer...
Ça. Xavier Blanc dit que c'est faux.
Mais non, c'est pas faux, c'était c'est le projet.
Non, mais ça n'exclut pas la répression normale. C'est pas alternatif. C'est-à-dire que non seulement les internautes vont pouvoir se prendre des amendes par une commission administrative, une justice d'exception sans premier degré de juridiction. S'ils veulent protester, il faudra qu'ils aillent devant la cour d'appel, seulement devant la cour d'appel. Mais en plus, ça n'exclut pas les mesures répressives habituelles. C'est-à-dire le petit matin à 6h avec
jeune,
la police. L'un n'exclut pas l'autre.
Quand j'étais jeune, je prenais le métro, je pouvais finir derrière les barreaux si jamais je récidivais 40 000 fois. Sauf que quand je passais la barrière sans payer, en face, je tombais sur un contrôleur qui m'envoyait pas un email. Je prenais une amende tout de suite. Donc voilà, c'est un mécanisme de répression qui est un peu plus léger que ce qui existait et qui va probablement dans le bon sens avec les offres légales. Parce qu'il faut arrêter de dire, encore une fois, qu'il n'existe pas des moyens d'avoir accès à de la musique. Il n'existe pas des moyens de rémunérer par la consommation de musique des auteurs, des interprètes, des producteurs. Aujourd'hui, nous, producteurs indépendants, on voit ces offres nous ramener des revenus que l'on se partage avec les artistes, les auteurs,
compositeurs. Pas avec les artistes.
Pardon ?
Pas avec les artistes.
Exactement.
Comment ça ? Moi, je vends et je fais vendre des fichiers dématérialisés qui sont achetés par des publics de plus en plus nombreux et je rémunère, je répartis à l'égard des artistes les sommes qui leur reviennent.
Et quelques artistes principaux, mais beaucoup de ces mises à disposition se font sans autorisation des autres artistes.
Absolument pas droit chez moi, en tout cas, je ne sais pas où vous prenez vos informations.
Écoutez, on se rend compte d'abord d'une chose, c'est qu'il y a confusion sur des termes. Je ferai juste une petite parenthèse avant pour dire qu'il y a un quatrième bon point à dire aux députés, même si j'ai pas toujours envie de dire des bons points sur ce qui s'est passé ce jour-là, c'est vous étiez présent.
Oui, parce qu'il y avait quoi, 58.
Donc c'est un point, cher Patrick, que je vous donne avec grand plaisir. Il y a une confusion sur les termes depuis le début. On entend les 13 500 artistes de la Spedidam qui ont signé cette pétition. Ces artistes, Ce sont mes frères, ce sont les gens qui font un métier dont j'ai besoin. Il y a, je vous le rappelle, à la Spedidam, tous les musiciens d'orchestre symphonique français, en tant que chef d'orchestre et en tant que compositeur de musique contemporaine, je les vois, et de studio, rassurez-vous, je ne vais pas en oublier. Quand on parle des musiciens d'orchestre symphonique, on parle de musiciens salariés. On parle d'une population, les interprètes qui bénéficient de l'intermittence, même si vous avez tous les problèmes qu'on connaît, du chômage, ce dont ne bénéficient pas les auteurs, et surtout, on parle d'une population qui, lorsqu'elle fait un enregistrement, est payée pour l'affaire, reçoit un cachet forfaitaire. Donc l'aspect d'IDAM gère, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, elle gère le droit de suite, elle gère le droit voisin, elle gère le complément de salaire par rapport à un salaire initial qui a déjà été versé.
Pour les artistes interprètes.
Les auteurs, la SACEM, la SACD, versent la seule rémunération des auteurs en ce qui concerne le monde de la chanson. Il peut arriver qu'il y ait ce qu'on appelle des primes d'inédit, mais la seule rémunération des auteurs. On est donc actuellement, par rapport à un nouveau système de financement proposé, entre la réaction de toute une population d'artistes parfaitement estimables, qui défendent leurs droits, et c'est normal, mais qui ont déjà un droit premier et auxquels finalement on propose une loi qui va leur faire gagner un peu plus d'argent. Et tant mieux, après tout, si ils gagnent plus d'argent, moi je serais ravi, ce sont mes frères. Mais de l'autre côté, on est devant des auteurs qui n'ont que ça pour vivre et qui ont une inquiétude qui n'a rien à voir. Le droit d'auteur est un droit premier. Le droit d'auteur est un salaire différé qu'on peut en aucun cas comparer au droit voisin. C'est pas du même esprit et c'est tant que c'est pour ça que 13 500 signatures, mais vous pourriez même en avoir 30 000, vous leur proposez de gagner plus d'argent. C'est normal qu'ils signent tous.
On va générer un peu de droit d'auteur en écoutant Camille dans Système Disque.
Pâle septembre, comme il est loin le temps du ciel sans cendre, il serait temps de s'entendre sur le nombre de jours qui jonchent le sol d'octobre. Mâle si tendre au début de novembre devint sourd aux avances de l'amour. Mais quel mal me prit de m'éprendre de lui. Sale décembre, comme il est lourd le ciel. Sais-tu que les statues de sel ont cessé de t'attendre? Pâle septembre, entends-tu le glas que je sonne? Je t'aime toujours.
France Inter dans Système Disque, on essaie de faire en sorte aujourd'hui que le public puisse faire une opinion sur le projet de loi destiné à protéger les droits d'auteur menacé par l'avènement Internet. Je vous rappelle que deux amendements relatifs à ce projet de loi visant à légaliser le système de licence légale globale, maintenant je ne sais plus comment
global,
on l'appelait.
Global, optionnel.
Optionnel, merci Xavier Blanc de l'aspect d'Ami pour le téléchargement de contenu culturel. Alors, Christophe Esperne, vous êtes un des co-fondateurs de l'initiative EUCD.info. Vous êtes à l'origine de la pétition qui a demandé le retrait du projet de loi. Et grâce à cette pétition, j'ai appris que ça allait se faire. Combien de signatures depuis le 2 décembre?
145 000 actuellement. Un peu plus de 145 000.
Alors, votre position était contre les DRM, les mesures techniques de protection, jugées liberticides, car elles mettent en danger l'usage personnel des œuvres, c'est-à-dire la copie privée. Qu'en est-il aujourd'hui dans le débat des DRM, justement?
Ben justement, nous, c'est un petit peu ce qui nous inquiète, c'est-à-dire qu'il y a tout ce débat sur la licence globale. On ne sait pas ce qui va en ressortir à la fin, ce que le gouvernement va faire, puisqu'actuellement, il auditionne énormément pour prendre des points de vue. Mais toute la problématique qui a été soulevée, et qui a d'ailleurs entraîner un tollé aussi monumental, et moi je félicite aussi les députés qui étaient présents à ce moment-là dans l'hémicycle, parce qu'ils ont très bien su démontrer les effets qu'auraient ces mesures techniques, tant pour les droits du public, vous parliez de la copie privée, mais aussi de la libre lecture, de pouvoir lire avec le lecteur logiciel de son choix, le périphérique de son choix, que pour la vie privée aussi, puisqu'il y a eu il y avait des cas récents qui démontraient que ces mesures techniques étaient tout simplement attentatoires à la vie privée. Et nous, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est justement que tout ce débat-là passe un peu à l'as, via et au-dessus il y a la licence globale, et qu'est-ce qui se passera si le gouvernement, bon, ça serait un petit peu, je dirais, un coup de force de trop, s'il décidait de revenir au texte original, ou à un texte qui serait à peine amendé, mais présenté comme ayant eu de nouvelles modifications, mais ça serait la communication, mais que le texte en lui-même soit tout aussi répressif, parce qu'il l'était clairement, puisque non content de restreindre le droit à la copie privée, droit essentiel qu'il faut garantir selon le président de la République, et nous on s'attache tout à fait à ça, mais c'est un texte répressif, puisque le simple fait de neutraliser un dispositif, donc de contrôle d'usage, pour par exemple le transférer vers un baladeur MP3, baladeur qui est soumis à la redevance, la peine prévue dans le texte, c'était jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Et puis deuxième point, moi je m'inscris vraiment en faux sur la question de la riposte graduée. Je sais que le ministre préfère réponse graduée, mais en l'occurrence le terme n'a pas été inventé par nous. À l'origine, c'était bien riposte graduée. C'est absolument pas substitutif. C'est pas une gradation dans la répression, puisque c'est à n'importe quel moment les personnes qui mettent ça en œuvre peuvent passer au pénal, et qui plus est, il y a une privatisation des missions de police et de justice sur Internet qui est faite et qui est absolument inacceptable. La police fait la police sous le contrôle d'un juge dans notre démocratie, dans notre état de droit. Il faut que ça soit préservé. Internet n'est pas une zone de non-droit où on pourrait privatiser la police, et les internautes actuellement qui mettent à disposition sont effectivement des contrefacteurs, et les entreprises qui se livreraient à des activités qui sont des activités de police sont des entreprises qui violent la loi. Et il faut que ça reste comme ça pour que chacun reste à sa place. Voilà.
Alors, vous défendez les logiciels libres, qu'est-ce que c'est ?
Alors, un logiciel libre, c'est un logiciel pour lequel l'auteur a donné autorisation à l'utilisateur de bien entendu de l'utiliser, mais aussi de le modifier, de le copier, de le redistribuer, de l'étudier. Donc on représente aussi des auteurs, et on est attaché au droit d'auteur, mais on est attaché à un droit d'auteur qui soit un droit d'auteur équilibré. Et la problématique qu'avaient les auteurs de logiciels libres actuellement, c'est qu'ils n'avaient été absolument pas pris en compte pendant la préparation du texte, malgré leurs demandes pendant 3 ans, malgré leurs propositions pendant 3 ans, et en urgence, à la fin du débat, on a pu poser quelques principes dans la loi, mais qui sont clairement insuffisants. Ce qui fait qu'on met en danger actuellement des auteurs, qui sont des auteurs de logiciels libres. Je rappelle que l'un des projets principaux du logiciel libre, c'est un projet, le projet GNU, qui est reconnu trésor du monde par l'UNESCO. Et ces gens-là n'avaient pas été pris en compte, et on proposait tout simplement, parce que dans les faits c'était ça, de censurer ces auteurs au nom du droit d'auteur, ce qui était absolument incroyable. Et qui plus est, ils fournissent des outils qui permettent de récupérer l'indépendance technologique pour les entreprises, les administrations. Et donc ça fournit des moyens à la France de récupérer son indépendance, de faire des économies de coûts. Et ça n'avait pas été pris en compte. Donc, il y avait toute une partie de problématiques stratégiques qui n'avaient pas du tout été abordées. Et nous, on se félicite qu'il y ait eu le débat à l'Assemblée. Ce qu'on espère, c'est que le débat va continuer. On est un peu inquiet parce que le gouvernement a l'air de vouloir accélérer de nouveau la procédure, alors qu'on pense qu'il faudrait le temps, parce que les propositions sur la table sont des propositions, je parle de la licence globale par exemple, qui prend en compte la réalité des usages et des techniques, mais nous on comprend très bien qu'il faut qu'il y ait un débat entre les filières qui puissent en débattre, voir quelles sont éventuellement les pistes de sortie par le haut, mais c'est sûrement pas en 3 semaines qu'on va y arriver.
Oui, justement, je pense que vous êtes d'accord. Et alors, comment reconnaître, si on a parlé de ces mesures techniques, ces DRM, comment on peut justement tracer une œuvre qui est lâchée comme ça sur Internet? Je veux dire que je pense que les DRM, ils sont là aussi pour pouvoir, même si je trouve qu'ils sont très restrictifs, ils sont là aussi pour pouvoir savoir quel titre est où, comment on peut rémunérer les ayants droit.
Est-ce qu'on sait ce que vous avez dans votre bibliothèque?
Moi, je ne sais pas moi-même.
Non, mais par contre, la bibliothèque de Wallis n'est pas proposée au monde entier.
D'accord, mais ça, c'est la... une deuxième chose.
Oui, oui, mais
faut
c'est,
pas mélanger qu'il faut l'usage bien public et l'usage privé.
Personnellement, il faut qu'on soit bien d'accord. En tant que compositeur, mais là je m'autorise même à parler au nom de la SACEM, même si je ne suis pas actuellement membre de ce conseil d'administration, c'est que l'idée de sanctionner les logiciels libres n'est pas un seul instant dans notre concept. Je vous accorde parfaitement que les choses ont été faites trop vite et probablement mal exprimées, mais que il nous paraît essentiel, évidemment, que ces logiciels puissent continuer à fonctionner, à la condition qu'ils soient pas détournés, évidemment,
voilà, parce
pour
que
devenir des
aux États-Unis, on les a.
Mais je crois qu'il faut quand même, prendre un certain sens des réalités. Moi, je suis abonné au Monde. Voilà, je paye 6 € par mois, à Internet, comme peut-être plusieurs personnes ici, pour être abonné au Monde. C'est très passionnant. Ben pour 6 €, j'ai pas la presse du monde entier. J'ai même pas le Figaro. J'ai pas Libération. J'ai le Monde. Point. On me propose pas toute la presse du monde pour 6 €. Et on est simplement devant un problème profondément économique et ensuite devant un problème de difficulté énorme pour nous de répartition parce que on est accroché à cette idée de répartition. À la SACEM, cette année, on a réparti des droits en 2005 à 42 000 sociétaires qui vont du gros dont on entend beaucoup parler avec cette abominable expression gros toucheur. Bah oui, il y en a quelques-uns. Mais il y a aussi des milliers, des dizaines de milliers d'auteurs, de petits auteurs qui vont gagner 1 000 euros, qui vont gagner 2 000 euros. Et cela, on veut aller les chercher où que ce soit. Les techniques de sondage ne nous permettront pas de le faire. Et la fameuse copie privée qui est toujours citée en exemple.
Mais c'est quoi les techniques de sondage?
Ben, écoutez, ça veut dire simplement qu'on prend, on regarde qu'est-ce qui a été vendu dans le domaine du disque, comment ont été les passages radio, et on met tout ça avec des péréquations extrêmement subtiles, on y met quelques correcteurs d'habitude de consommation des Français, et on arrive à une répartition. L'auteur de musique de film que je suis peut vous dire qu'il voit de la musique, de la copie privée. L'auteur de musique contemporaine que je suis vous dit qu'il n'en voit pas parce que il est trop petit. C'est inévitable. On ne veut pas arriver dans un système dans lequel les petits auteurs seront pénalisés. Et le paradoxe est que cette licence globale est celle qui va permettre le mieux aux majors de s'en sortir. Ce sont les seuls qui auront la surface nécessaire avec des produits déjà amortis à l'étranger de le faire. Vous n'êtes pas d'accord, cher ami, ça ne m'étonne pas, mais je le pense sincèrement.
Et il parle à Xavier Blanc de la Spédidame. Et quand est-ce que l'auteur pourrait-il décider lui-même de l'exploitation de son œuvre, c'est-à-dire sous quel format, libre de droit, préconise par exemple le Creative Commons?
D'abord, je vous rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, un jeune auteur qui commence n'est pas obligé de s'inscrire à une société d'auteurs. Il peut être indépendant. Mais il y a quand même quelques idées qu'il faut enlever. L'idée que le net vous permet d'arriver partout. Mais se faire connaître sur le net, ça sous-entend aussi beaucoup de promotion. Malheureusement, et de promotion dans le monde réel. Hein, parce que il faut avoir de l'espace. Et on est malheureusement dans cette situation. Donc, l'auteur qui va être tout seul, il va en plus avoir un autre problème. C'est que le jour où il va falloir se battre, le jour où il va falloir négocier devant des grands médias, prenez le plus célèbre d'entre nous, tout seul devant TF1, il pèse rien. C'est pour ça qu'on a des sociétés. D'ailleurs, ce que je dis est d'ailleurs valable aussi pour les musiciens interprètes, que soient les solistes représentés par la DAMI ou les musiciens interprètes d'ensemble présentés par la Spédidame. Tout seul, on n'est rien. On a besoin de nos sociétés. Le problème est de savoir ce qu'on fait ensuite et quelle est leur stratégie. Nous voulons, nous, impérativement, défendre la notion d'auteur du plus petit au plus grand et surtout, ne pas briser la relation entre l'investissement culturel, l'investissement de création d'un auteur, l'investissement de son producteur et le retour possible sur investissement. Et nous disons que le calcul par sondage de la vague part que peut avoir un producteur sur la manne et plutôt l'aumône qui viendra de cette licence globale n'est pas de nature à inciter un producteur à continuer à nous produire. C'est ça, avant même notre rémunération, on veut exister et on a l'impression que cette loi ne va pas nous permettre d'exister.
Vous avez pensé à ça, Patrick Roche, quand vous avez voté?
J'écoute avec beaucoup d'attention Laurent Petit-Girard, parce qu'on se connaît depuis déjà quelques temps et j'ai beaucoup d'estime déjà pour l'artiste qu'il est, mais aussi parce que il traduit une vraie préoccupation qui est celle que nous avons en tant que législateurs. Quand on fait la loi, on l'a fait pour tout le monde. Donc c'est sûr qu'on l'a fait pour les artistes, qu'ils soient auteurs ou interprètes, qu'ils soient petits ou grands, et encore les qualificatifs peuvent être désobligeants. Et je voudrais pas que le terme petit soit mal employé. Bon,
oui,
qu'ils soient sous contrat ou qu'ils ne soient pas sous contrat, qu'ils soient avec un label indépendant ou avec un major. Donc nous avons l'ambition de rassembler les artistes là où ils sont divisés sur cette question. Ne l'oublions pas. Et puis nous avons... Et c'est une ambition encore plus grande, c'est le souci de rassembler à la fois les artistes et leur public, c'est-à-dire celles et ceux à qui sont destinées les œuvres de la création. Et nous voulons casser cette coupure que ce projet de loi aurait irrémédiablement créée. Donc cette ambition, nous l'avons fait dans une démarche, je le rappelle avec force, qui est une démarche qui vise à casser à la fois l'illégalité et la gratuité qui est le lot actuel, qui vise en autorisant à pouvoir enfin poser les bases d'une rémunération. Et cette rémunération, elle est au débat actuellement. Quant au mode de rémunération, quant au souci d'une répartition équitable que Laurent Petit-Gerard évoquait à l'instant, et je crois que dans cette affaire, de toute façon, le droit d'auteur, il s'adaptera tôt ou tard aux évolutions technologiques. Soit on le fait maintenant, soit on le fait dans 2-3 ans. Mais j'ai peur que dans 2-3 ans, ce soit malheureusement, sinon trop tard, tout du moins avec des dégâts conséquents sur la création.
Ça va être difficile. Quand on a donné quelque chose de gratuit maintenant pour renverser la tendance, je pense que ça va être très difficile. De toute façon, ça n'a jamais été. Quelqu'un a eu quelque chose de gratuit et après, on a décidé de demander à quelqu'un de le payer. Donc, je pense que c'est là.
Mais la gratuité, elle existe actuellement. Avant le 21 décembre. Ce que j'essaie d'expliquer, je me tais.
Ce que j'essaie d'expliquer simplement,
c'est que la gratuité, elle n'existe pas depuis le vote des deux amendements identiques du 21 décembre. Elle existe en tant que telle. Quel cadre législatif, quelle norme nous mettons en place? Surtout que je rappelle que la jurisprudence en ce domaine va et ira de plus en plus vers une légalisation du téléchargement.
Stéphane Bordoiseau et après Xavier Blanc.
Ouais, cette notion de gratuité, elle n'existe pas. Et justement, ce vote du 21 décembre pourrait éventuellement la renforcer. Hier, on a donc des adeptes du peer-to-peer, de l'échange de fichiers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un échange de fichiers ou si vous avez essayé de télécharger par ce genre de logiciel de la musique. C'est assez compliqué. On a des fichiers qui sont de tout et de n'importe quoi. Ça prend du temps de trouver. La qualité des fichiers n'est pas très bonne. Et en plus, on est effectivement, avant le 21 décembre, dans un environnement où l'on sait que lorsqu'on télécharge en peer-to-peer, on le fait de façon illégale. Donc il y a également une notion de risque qui est à apporter à cette mécanique. Donc ça veut dire
qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent pour dire que j'ai découvert pas mal d'artistes comme ça, même aimés, j'achète quand même. Il ne faut pas diaboliser tout le monde.
Il y a bien évidemment une capacité promotionnelle à cet environnement qui est très intéressante.
C'est intéressant d'entendre ça d'une patronne de la balle.
Je vous garantis qu'on fait énormément de promotion sur le net de façon générale et qu'on met parfois des fichiers musicaux libres, enfin gratuitement dans les réseaux pour pouvoir faire connaître. Mais encore une fois, hier, la musique en peer-to-peer n'est pas gratuite. Elle est pénible à obtenir, la qualité n'est pas très bonne. Et il y a une notion de répression, ou de risque en tout cas, qui est liée à ce comportement. Ça veut dire que quand on prend la décision, ou quand on s'apprête à prendre une décision qui légalise cet échange de fichiers de musique, on rend cette musique beaucoup plus gratuite, en tout cas en termes de perception, puisqu'il n'y a plus le risque qui est associé.
J'avais dit que j'allais donner la parole à Xavier Blanc, mais vous aviez quelque chose à dire là-dessus, Christophe Espern.
Juste un mot, c'est actuellement il y a une proposition qui est sur la table, qui est la licence globale, qu'il faut étudier, analyser, c'est à la FIA, etc. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que proposent donc les producteurs, les artistes, enfin les artistes qui sont contre la SACEM, etc. Face à ça, parce que effectivement, il faudrait la valeur d'usage du peer-to-peer est abaissée par le fait que il y a des freins à la difficulté de trouver éventuellement les fichiers qui sont, mais encore tout ça c'est très relatif. Mais est-ce que, parce que les offres légales qui sont actuellement proposées, le nombre de freins qui sont mis à l'achat, alors ça va être uniquement la compatibilité avec une plateforme,
mais c'est interopérabilité,
avec un prix, etc. et ça ne répond pas à la demande, ni à la demande. Alors il y a le problème du prix, parce qu'il y a beaucoup de qui trouvent que le prix n'est pas raisonnable, et puis les usages, les gens veulent partager, veulent utiliser la technologie pour le faire, veulent proposer leur goût culturel, etc. et veulent discuter avec d'autres par Internet en leur disant « Regarde, j'ai trouvé ça là, va le chercher, etc. » Ça, c'est des usages qui sont actuellement
illégaux. Je pense qu'il faut donner un peu de crédit aussi aux internautes, parce qu'il faut pas dire que tout le monde sont, comme vous dites, sont pas, on a envie de partager.
Ils sont plus responsables. Voilà.
Ils sont plus responsables.
Ils ne sont pas caricaturés comme ce qui est fait, parce que si on reste dans le débat caricatural, ça va recommencer. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans l'opposition et le conflit, et finalement on construira rien et personne ne s'y retrouvera.
Xavier Blanc, en réponse de... Laurent Petit-Gerard tout à l'heure.
Pas spécifiquement, juste sur la notion de substituabilité. Cette licence globale optionnelle qui est proposée pas seulement par la SPIDAM, effectivement par la LAMI, par les syndicats d'artistes interprètes comme le SAMUP, par les organisations de consommation, consommateurs. Enfin, il y a un ensemble d'organisations qui représentent à la fois les artistes et leur public. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui a été dit tout à l'heure est très significatif, à savoir que les échanges en peer-to-peer, c'est un type d'échange particulier. On n'a pas l'information sur les fichiers, on n'a pas des titres qui sont parfaitement respectés, on n'a pas une interface qui est simple à utiliser.
Aujourd'hui,
Aujourd'hui,
dit Stéphane.
Oui, aujourd'hui et demain, dès lors qu'on restera dans une légalisation du système qui concernera les échanges non commerciaux entre particuliers. C'est ça le projet. Donc il y a bien un marché distinct, un type d'utilisation distinct pour les échanges en peer-to-peer, pour les ventes de support qui ont repris sur les premiers mois de 2005, hein, il faut le dire, et sur les plateformes dites légales, mais que j'appellerais plutôt commerciales, parce que sur la légalité, il y a des petits problèmes. Ces plateformes, encore faut-il qu'elles soient attractives et qu'on fasse le nécessaire pour ça. C'est-à-dire qu'on n'oblige pas les 12-15 ans à payer avec une carte Visa ou avec une carte American Express, et puis qu'on garantisse l'interopérabilité, qu'on donne un petit peu de plus-value à ces consommateurs quand ils consultent les sites de téléchargement qui sont des sites commerciaux. Un mot, le dernier, vous avez cité Vincent Delerme tout à l'heure, et c'est très intéressant, ces artistes principaux vedettes qui ont des contrats d'exclusivité avec les producteurs, donc qui sont liés avec eux contractuellement, qui doivent faire aussi attention quand ils s'expriment sur ce point, il évoquait tout à l'heure, ah oui, j'ai appris qu'il n'y aurait plus de droits d'auteur. Mais c'est pas du tout ça, la licence globale optionnelle. Et je comprends bien pourquoi il peut être contre. Mais c'est le contraire. Quand on discréditera le droit d'auteur et les droits voisins en faisant que de la répression et en plongeant 8 à 10 millions d'internautes dans une pseudo-illégalité, là, on fait perdre la légitimité du droit d'auteur qui a été durement acquise. Et je crois que c'est plutôt de cette façon-là, avec la répression, avec cette volonté d'interdire, qu'on va tuer le droit d'auteur.
Et le cinéma, c'est inclus dans tout ça? Dans ces licences.
C'est le vrai grand problème. Je suis sûr que Patrick Goff aura des choses à vous dire à ce sujet-là. Il est bien clair que la chronologie des médias que nous connaissons, qui fait qu'un film va d'abord sortir en salle, puis qui sortira sur une chaîne cryptée, qui aura le DVD, qui sortira ensuite sur une chaîne généraliste, etc., fait que, bien évidemment, s'il y a 8 millions de copies qui ont déjà été, 8 millions de fichiers qui ont été téléchargés avant même la sortie du film, aucune chaîne de télévision n'investira massivement sur le film, aucune avance sur les DVD n'arrivera, et puis, évidemment, le cinéma sera en grande difficulté. Donc, on dit, excluons cinéma. À ce moment-là, ça veut dire d'abord un art à deux vitesses.
Des médias,
un art à deux vitesses, et puis surtout, ça veut dire que pour bien analyser ce qui est un film morcelé en 10 fichiers, ou bien ce qui est une chanson, ou bien ce qui est ça, etc., faudra à nouveau fliquer le net. Alors il y a quand même quelque chose.
Il y a des solutions techniques qui existent. Il y a des solutions techniques. On peut très bien envisager, d'une part, que en fonction de la bande passante qui est utilisée par l'internaute, exactement comme sur la copie privée. D'ailleurs, les calculs qu'ils ont faits. Ensuite, des mesures d'audience, comme l'audimat, qui seront mis sur les postes clients volontairement par les internautes, et vous aurez des remontées.
Donc vous pensez donc à une population d'internautes qui va accepter volontairement d'avoir des petits boîtiers à la maison. Eh bien, j'en suis ravi, je le note, mais pour
la télévision, c'est ce qui se passe.
C'est bizarre.
Sur la télévision, c'est ce qui se passe.
On peut absolument le faire pour la musique, si on peut le faire pour le cinéma. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les réseaux peer-to-peer, on a les films avant même leur sortie en salle. D'accord. Et là, on est en train de nous dire qu'on va faire quelque chose de très particulier pour le cinéma, c'est que on va autoriser le peer-to-peer seulement après 4 ans. Aujourd'hui, on a des dizaines de millions d'internautes dans le monde entier qui ont accès au film avant l'entrée en salle.
Mais c'est des blockbusters aussi, ça, non? C'est des blockbusters qui sont
mais
piratés.
Mais tous les films, je veux dire, il y a autant de fichiers musique, enfin, une diversité de fichiers de musique et de films qui sont dans les réseaux de peer-to-peer aujourd'hui. Donc c'est totalement aberrant de séparer la musique du cinéma.
Juste une chose, si vous permettez, qui me paraît quand même très importante, c'est que d'un côté, les créateurs, de l'autre côté, les interprètes, qu'ils soient solistes ou de groupe, finalement, on a quand même un désir tous, c'est d'essayer d'arriver à produire le plus de choses, le plus de belles choses, et que ces choses puissent être communiquées à un maximum de gens. Et au fond, on est actuellement devant une réflexion où d'un côté, il y a l'idée de dire communiquons et communiquons le plus vite possible et le mieux possible, ce qui est sympathique, c'est ce que je vous entends dire, dans l'absolu, pourquoi pas, et de l'autre côté, une réflexion qui consiste à dire, attention que cette communication et ce mode de communication que vous nous proposez ne se mettent pas à nous empêcher de produire et ne se mettent pas demain à réduire la diversité. Mais dans le fond, ce qu'il faut surtout arrêter, c'est l'idée manichéen des méchants nantis d'un côté qui veulent garder leurs privilèges et de l'autre côté,
que les
grands généreux artistes ouverts surtout, on est dans un monde beaucoup plus complexe, dans lequel, comme le disait tout à l'heure Xavier Gand, beaucoup d'artistes sont à la fois auteurs, eux-mêmes interprètes, etc. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions saines qui nous permettent d'arriver à un résultat équilibré et toujours productif et toujours créatif. Il est vrai que nous, auteurs, nous n'avons pas l'impression d'y être arrivés avec la licence globale, mais le débat est ouvert.
On a vraiment très peu de temps, Patrick Bloch, très vite, parce qu'on a une minute pour terminer.
Nous vivons dans une société qui, avec le développement de l'Internet, amène à réaliser cet objectif qui a toujours été l'objectif des politiques culturelles, c'est de permettre à un plus grand nombre de nos concitoyens d'accéder, au-delà de leur pouvoir d'achat, à des contenus culturels.
Mais il faut peut-être penser à la longue
terme. Cette chance, construisons de nouveaux modèles économiques, faisons vivre le débat démocratique.
On est d'accord.
Voilà, c'est ça la diversité culturelle.
Stéphane Bordoiseau.
Moi, je suis absolument d'accord avec cet objectif. Je pense juste que la licence globale n'est pas la bonne solution.
Continuons à en parler.
Xavier Blanc, Spedidam.
Non, juste pour indiquer, le problème de la répartition est un faux problème, puisqu'effectivement, rien qu'en mesurant les flux Internet et sans aller dans l'intimité de l'internaute, on peut très bien avoir des éléments très précis sur la répartition, tout autant que dans les lieux sonorisés ou dans d'autres secteurs dans lesquels la SACEM s'est parfaitement répartie d'ailleurs.
Christophe Espern, vraiment le mot de la femme.
Très très rapidement, je pense que vu que la complexité du débat, il serait sage de lever l'urgence sur le projet de
Exactement.
Loi, et en termes de caricature, il faut surtout pas non plus assimiler tous les internautes à des gens qui se rouent sur le peer-to-peer pour télécharger gratuitement. C'est des usages culturels avec tout ce que ça implique derrière. Voilà.
Merci beaucoup à Xavier Blanc, Patrick Bloch, Stéphane Bordoiseau, Christophe Espern et Laurent Petit-Girard. Merci aussi à Vincent Delerme. Toutes les infos évidemment liées à cette émission sont sur le site de Système 10, tapez franceinter.com. Vous pourrez la réécouter pendant 8 jours. Merci à tous les courriels qu'on a reçus parce qu'il y en a beaucoup. Je vous promets, on fait une autre émission là-dessus. La semaine prochaine, Système 10 serait en direct de la 40e édition du MIDEM qui aura lieu à Cannes. On va se retrouver sans doute là-bas. Merci beaucoup.
Pour l'assurance vie avec un long terme révisable, tapez 1. Pour l'assurance vie auto variable indexée, tapez 2. Pour l'assurance vie à rendement obligataire constant,